Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour en direct et jusqu'à 16h. Pendant une heure, je suis accompagné de ma camarade Ombline. Bonjour, ma chère.
Bonjour Olivier, bonjour à tous, ça va bien, merci.
Pendant cette heure, nous parlons de vous, de vos expériences, de vos combats, de votre parcours. Si la Coupe du Monde de féminine de football qui s'est achevée dimanche avec la victoire des États-Unis a enregistré des records d'audience historiques et a largement contribué à donner une visibilité nouvelle au sport féminin, son traitement médiatique n'a pas été sans dérapage. Les préjugés sexistes ont la vie dure et pour cause. Dès leur plus jeune âge, les enfants entendent et intègrent des idées reçues liées aux capacités physiques de chacun. Il y aurait des sports de filles gracieux et légers comme la danse ou la gymnastique, et puis les sports de garçons plus brutaux comme le rugby ou les sports de combat. Qu'elles soient sportives, professionnelles, amateurs ou entraîneuses, les femmes sont moins médiatisées et surtout moins respectées que leurs homologues masculins. Quelle forme le sexisme prend-il dans le sport? Pourquoi les préjugés sexistes persistent-ils dans ce domaine? Sexisme dans le sport, comment le combattre? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Oui, vous êtes sportive ou sportif, ou pas du tout. Vous avez un avis, vous nous le dites au 3921. Vous n'hésitez pas également à réagir, nous écrire, poser vos questions sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Jade sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Jade.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Jade?
J'ai 20 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors, vous avez, vous, toujours aimé le sport et dès votre plus jeune âge, vous avez été confronté au sexisme en cours de PS notamment ou dans la cour de récréation. Racontez-moi ces débuts de sexisme dans, justement dans le sport.
Bah, c'est un sexisme très banal, on va dire. Dans
basique.
La... Ouais, basique. Dans la cour de récréation notamment parce que pendant les récréations, les garçons jouent au football. Et si on a envie de jouer au football quand on est un petit pied, en fait, pour qu'on nous passe la balle, il faut aller la chercher. Sinon, on ne vient pas nous la passer. Il faut avoir un minimum de confiance en soi, un minimum d'assurance quant à ses capacités sportives pour aller jouer au foot avec les garçons pendant la cour de récréation et pendant les profs, pendant les cours de sport. C'est assez marquant parce qu'en fait, quand on fait des catégories de niveau, ce qui est normal, mais les profs souvent séparent les garçons et les filles, donc la catégorie forte étant la catégorie des garçons et la catégorie faible des filles, et les filles donc qui sont sportives et qui ont envie de jouer à un bon niveau sont obligées de faire leurs preuves dans la catégorie faible pour ensuite monter dans la catégorie meilleure qui est celle des garçons, donc il y a un peu un préjugé inhérent dans la cour de récréation et à l'école en fait que les garçons seraient meilleurs et sportifs et que les filles non.
Alors, vous avez pratiqué la gymnastique, hein, je crois, et l'athlétisme, et vous dites que vous n'y avez pas ressenti beaucoup de sexisme. C'est parce que ces sports sont associés aux femmes, selon vous ?
Oui, alors c'est assez différent dans les deux sports. En gymnastique, c'est un sport qui est pratiqué, qui est énormément pratiqué par des filles, donc c'est un sport très normé. Il y a des juste corps, des paillettes, de la musique, donc et les garçons et les filles ne font pas du tout la même chose. Donc c'est très normé, mais je ne me suis jamais sentie remise en cause dans ma légitimité à pratiquer ce sport, ce que j'ai ensuite pu ressentir dans d'autres sports. Et en athlétisme, c'est un sport très mixte. Toutes les épreuves, à peu près, sont pratiquées par les deux genres et sont simplement différenciées dans les courses garçons, les courses filles. Mais je n'ai pas du tout ressenti ce sexisme.
C'est quand vous avez commencé à pratiquer le rugby hein, que le sexisme s'est vraiment fait sentir. Expliquez-moi dans quel cadre donc, vous avez pratiqué le rugby et ce que vous avez senti très vite.
C'est ça. Bah, du coup, j'ai commencé le rugby à 18 ans, quand je suis rentrée à la fac. Et très vite, dans le métro, dans le bus, avec mon équipe, on se prenait des remarques parce qu'on était en short, parce qu'on avait des crampons, de la boue sur les genoux. Et voilà, vous faites du rugby, mais c'est pas un sport de femmes. Mais c'est pas trop violent. Mais les femmes se tapent moins fort. Voilà, ça va déformer votre corps. Donc c'était assez violent. Une fois par exemple on fêtait une troisième mi-temps, donc on avait des bières et on chantait et une dame nous a dit ah mais maintenant les femmes font tout comme les garçons, elles jouent au rugby, elles boivent des bières. Donc voilà, c'était assez courant et pour la première fois de ma vie je me suis sentie comme une femme qui faisait du sport et pas seulement une sportive, parce ce que j'avais toujours été, une sportive. Mais là, pour le coup, mon genre, enfin le fait d'être une femme, était revendiqué pleinement dans mon sport.
Oui.
Et je me suis rendu compte que tout le temps, en fait, je devais un peu faire de la sensibilisation, expliquer que non, on n'a pas besoin de peser 120 kilos pour faire du rugby, que oui, on peut mettre des jupes et jouer au rugby, enfin, qu'il n'y avait pas de stéréotypes derrière, et un peu tout le temps cette impression de lutte en dehors du terrain, oui. Et pas seulement sur le terrain. Donc,
ce qui doit
ça m'a énormément marqué.
Ce qui doit être assez pénible, finalement. Alors, vous êtes très investi aujourd'hui dans l'association Passe au Large, qui promeut le rugby féminin en France et en Amérique latine. C'est par ce type d'action qu'on peut faire disparaître les préjugés, en tout cas les combattre, ces préjugés autour du sport féminin, selon vous ?
Oui, je pense vraiment, parce que donc, cette association, on fait venir... chaque année, une équipe d'Amérique latine jouait des tournois internationaux en France, en Europe.
Oui.
Et c'est impressionnant ce que les rencontres et ce que ce projet en fait permet de développer, parce qu'on arrive là c'était en Colombie cette année, on arrive en disant voilà, on fait confiance aux femmes, on leur donne une opportunité qu'on donne pas aujourd'hui aux garçons du club, et parce qu'elles ont un super niveau, elles méritent d'être représentées à l'international. Et c'est un peu ce qui se passe jamais en fait en sport, c'est de dire aux femmes vous avez des chances, vous pouvez jouer à haut niveau et vous avez le droit d'être visible et reconnu partout. Et ça, je pense que ça contribue énormément, et je l'ai vu toute l'année sur les actions qu'on a menées avec Passe au Large au développement du sport féminin et plus largement à la mise en confiance des femmes de manière générale dans la société.
Votre association s'appelle donc Passe au Large. Elle promeut le rugby féminin en France, en Amérique latine et partout où l'on veut ouvrir ses oreilles et entendre le discours de ces sportives et d'ailleurs non sportives qui rejoignent cette association Passe au Large, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Merci beaucoup Jade pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi. Dans un instant, nous accueillerons Béatrice Barbus. Elle a pratiqué le handball à haut niveau et elle se bat aujourd'hui contre le sexisme dans le sport. Elle a pratiqué le handball.
Oui.
Il faut que je m'habitue, vous
c'est
savez, parce
allemand,
que je suis d'une génération où on disait football, handball, basketball. Et aujourd'hui, il faut faire l'effort de dire balle.
Oui.
Et j'incite tout le monde à faire cet effort.
Effectivement. Europe 1. Nous parlons du sexisme dans le sport. Vous y êtes confronté, vous y avez été confronté. Comment le combattre, ce sexisme ? Vous nous racontez au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons des femmes victimes du sexisme dans le sport, qu'elles soient sportives professionnelles, à un poste d'encadrement, entraîneuses, journalistes sportives. Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Et nous sommes maintenant avec Béatrice. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Béatrice.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous avez commencé le handball à l'âge de 11 ans, enfant puis adolescente. Vous aviez déjà conscience du sexisme dans ce sport, parce que je trouve que c'est excessivement rugueux, le handball.
Oui, d'ailleurs, derrière, souvent, on dit qu'on est des cousins, pas seulement pour les valeurs morales, mais vous avez raison pour la violence du jeu. Bien sûr que c'est un jeu qui est à contact, donc forcément, il peut être violent.
Est-ce que le sexisme, vous l'avez constaté dès le début, justement ?
Alors, oui, j'ai pas constaté le sexisme en tant que tel. Je n'utilisais pas en tout cas ce terme-là, mais j'étais consciente qu'il existait de profondes inégalités. Moi, je jouais dans un club, en plus, en grandissant, j'ai joué dans un club où il y avait deux équipes, une équipe masculine et une équipe féminine, au plus haut niveau national, donc j'ai eu le loisir de pouvoir comparer au moment où je jouais. Et je voyais bien que les garçons avaient beaucoup plus de moyens que nous, que ce soit en termes financier d'abord, parce que c'était le début au handball du professionnalisme, enfin du semi-professionnalisme au handball, ce qu'on appelle en sociologie l'amateurisme marron. Donc ils touchaient de l'argent, ils se déplaçaient souvent en avion, ils avaient des équipements sportifs, ils s'entraînaient tous les jours, alors que nous, pas du tout. Nous, on était dans la situation des footballeuses d'aujourd'hui. En plus, on touchait pas d'argent, donc voilà, on avait une triple vie, une vie personnelle, une vie d'étudiante ou une vie de salarié pour les plus ceux qui étaient sortis des études, plus la vie sportive. Donc je me rendais compte, et j'étais d'ailleurs à cette époque-là, je représentais mon équipe au sein du conseil d'administration de mon club pour justement essayer d'avoir un peu plus de moyens que nous en avions à l'époque. Donc je ne l'exprimais pas en termes de sexisme, mais je l'exprimais, mais je le voyais bien en termes d'inégalité. Par ailleurs, je dois dire que j'en étais tellement consciente que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, j'avais complètement oublié ça, c'est qu'en DEA de sociologie, mon mémoire principal portait sur la question du sport de haut niveau et les femmes. Et en le relisant l'autre jour, je me suis aperçue que déjà, dans ce mémoire, je m'intéressais à ces inégalités, mais à aucun moment dans ce mémoire, il n'y a eu le mot sexisme. Donc j'avais bien conscience de ces inégalités, mais le sexisme n'était pas à l'agenda politique, il n'était pas dans le contexte social de l'époque. Là, je vous parle des années 80-90.
Oui. Mais on voit quand même que le traitement qui est réservé aux sportives de haut niveau aujourd'hui, il traduit bien l'esprit patriarcal de cette société française, non ?
Oui, absolument. Là, je vous dis que les handballeuses sont professionnelles, mais leur niveau de salaire n'est rien comparable à ceux que touchent les handballeurs professionnels encore, et encore moins les footballeurs. Hein. Donc, c'est pas parce qu'elles sont professionnelles que la situation est réglée. Bien évidemment que tout cela est symptomatique d'une société patriarcale dans laquelle on est. C'est une société qui a été pensée par des hommes, qui a été conçue par des hommes, qui a été conçue au travers du regard des hommes. Donc, toute l'économie a été pensée par les hommes et pour les hommes. Les femmes ont été exclues du marché économique sportif pendant près d'un siècle. Donc, il est logique aujourd'hui que sur le plan économique, on constate de telles inégalités.
Oui, elles ne sont plus, comme je le disais, elles ne sont plus exclues complètement aujourd'hui, mais on voit que la différence de traitement est tellement symptomatique que, c'est vrai qu'on peut s'élever complètement contre ça et on peut parler de sexisme. Vous dites que plus vous vous éleviez dans les fonctions sportives, plus le climat devenait sexiste. Pardon, expliquez-moi ça.
Eh bien, plus, en fait, je me suis aperçue que plus vous vous rapprochez du plafond de verre, et plus le sexisme est fort et vous le subissez de manière violente, surtout que vous-même vous vieillissez. C'est-à-dire que je me suis aperçu que le sexisme, je le vivais comme toutes les femmes depuis quasiment ma naissance, mais qu'il arrive à un moment où il est tellement pesant, où vous avez tellement avancé aussi, vous vous dites, non mais attendez.
Oui, c'est pas possible.
Là, je comprends pas. Ouais. Là, c'est pas possible, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien dans notre société.
Mais ce qui est incroyable dans votre carrière, c'est que vous avez été notamment la dirigeante numéro 1 de l'US Ivry Handball, dont l'équipe masculine est devenue notamment championne de France, puisque vous étiez la présidente. Et vous avez été de nouveau confrontée au sexisme. Racontez-moi.
Et ben c'est pour cette raison-là, justement, que j'ai été obligée de faire face à du sexisme, parce que j'étais devenue la numéro une, et qu'au bout d'un moment, quand une femme devient dirigeante, c'est-à-dire quand elle a réussi à fissurer le plafond de verre, en général, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille sa place, comme on dit entre guillemets en sociologie. Donc moi, j'ai travaillé ma place pendant deux ans, trois ans, et une fois que vous avez travaillé votre place, vous pouvez commencer à vous affirmer en tant que vraiment dirigeante. C'est-à-dire que, disons-le très clairement, les deux, trois premières années, je n'osais pas parfois, m'opposer à certaines décisions qui étaient prises par des hommes de mon club, parce que je ne me sentais pas capable, ni légitime d'ailleurs, de m'y opposer. Puis au bout d'un moment, vous vous sentez légitime et vous avez envie aussi de faire valoir votre regard, votre opinion. Et c'est là que le bas blesse. C'est quand vous commencez en fait à faire de l'ombre à un certain nombre d'hommes, c'est ce qui s'est passé avec moi, que les choses vont mal.
Alors, pour vous, tout ça doit passer par l'éducation, réellement. Hein. C'est là que ça se joue, c'est là que le bas blesse.
Ben évidemment, il faut éduquer effectivement nos enfants, à la fois nos petites filles, mais aussi nos petits garçons, différemment qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il faut leur apprendre à vivre ensemble, il faut leur apprendre à arrêter de toujours vouloir comparer. Il faut essayer de les éduquer aussi dans l'idée que le masculin n'est pas supérieur au féminin, que le féminin n'est pas inférieur au masculin, que tout est possible pour les uns et pour les autres, et qu'il convient pour cela de les éduquer, en fonction de cet objectif-là, d'en faire des citoyens libres de choix.
Bon, en tout cas, ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a des femmes comme vous, puisque vous êtes aujourd'hui membre du conseil d'administration de la Fédération française de handball, et que l'évolution du sport féminin et combattre le sexisme passe par la voix de celles et ceux qui le combattront, et que vous êtes l'une de ces voix, Béatrice Barbus. Merci pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je précise que vous êtes l'auteur du livre « Du sexisme dans le sport » disponible aux éditions Anna Mossa. Et dans un instant, nous allons accueillir Catherine Louveau. Elle est sociologue, spécialiste des questions de genre dans le sport.
Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Béatrice. Vous êtes sportive. Vous avez été confrontée au sexisme quand vous exerciez votre pratique. Entraînement, compétition, reconnaissance. Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Les Jeux Olympiques d'hiver 2014, et après des années de lutte, pour la première fois depuis presque 100 ans, une épreuve féminine de saut à ski a eu lieu. Elle était réservée aux hommes sous prétexte qu'elle ne semblait pas convenir aux femmes sur le plan médical. On parle du sexisme dans le sport avec Olivier Delacroix et avec vous 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Catherine Louveau, sociologue, spécialiste des questions de genre dans le sport. Bonjour madame, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Alors, quels sont les fondements des stéréotypes autour de la pratique sportive des femmes ?
Ben écoutez, les fondements sont dans l'histoire, hein, l'histoire du sport, c'est-à-dire que depuis le 19e siècle que tous les sports se sont développés en France,
oui.
Ils ont été pensés par les hommes, pour les hommes. De Coubertin, qui est une référence majeure en France, est un peu un obstacle d'ailleurs, puisque pour lui, le sport, c'était une école de la virilité,
oui.
Et les femmes n'ont rencontré que des interdits. Historiquement, elles étaient le sexe faible. Les médecins s'en sont mêlés, beaucoup de morale s'est développée autour de cela. Donc la femme, c'était d'abord la mère et l'épouse. Donc il y avait tout un ensemble d'interdits, de précautions à prendre. Il ne fallait pas exposer le corps, les jambes, pas faire de grimaces, pas d'efforts. Enfin bref, c'est pour ça par exemple qu'elles n'ont pu accéder à l'athlétisme aux Jeux Olympiques en 1928 par exemple.
D'accord. Et aujourd'hui, bon, la société a tout de même évolué, mais ces préjugés ont la vie dure. Quelle forme prennent aujourd'hui ces préjugés justement ?
Oui, alors très concrètement, justement, on parlait tout à l'heure de la gymnastique, les sports sont très sexués de nouveau,
oui.
Alors qu'il n'y a plus d'interdits. Par exemple, il y a plus de 80% de femmes aux fédérations de gymnastique, d'équitation, de sport de glace, quand il y en a moins de 10% au tir, au rugby et au football.
Oui.
Donc les filles sont attendues comme calmes, gracieuses, devant être dans l'esthétique, séduisantes. Les garçons sont attendus comme forts, courageux, entreprenants, combatifs. Il suffit de voir, par exemple, les préjugés aussi dans les jouets, hein, qui forment ces motricités, l'absence de motricité pour les filles et beaucoup pour les garçons, la cour de récréation. Et à l'âge de 6 ans, 7 ans, eh bien, que font les petites filles comme premier sport ? De la gymnastique ou de la danse,
oui,
donc
oui.
La grâce, l'esthétique, à l'intérieur, dans des salles. Et que font les petits garçons ? Du judo, du football, à l'extérieur ou du combat.
Oui.
Voilà.
Comment expliquer les écarts considérables de salaire entre hommes et femmes dans le sport ? Je parlais tout à l'heure de la coupe du monde des femmes. On voit aujourd'hui un écart dithyrambique de salaire entre les femmes et les hommes dans ce football professionnel.
Oui, les différences sont absolument abyssales. Il y a très peu de professionnels, par exemple, dans le football. La
oui.
première équipe, ça date quand même que de 2004, hein,
oui, oui, oui.
Professionnel
et encore,
en football.
Oui.
Donc, il y a un écart historique dans l'accès aux pratiques, bien évidemment. L'économie ne s'est pas saisie de ce marché, ou pas encore en tout cas, parce que pendant des années, moi j'ai beaucoup entendu dire pour la médiatisation, ça ne se vend pas, ça ne se vend pas, ça ne se vend pas. Et donc, comme c'est lié, bien évidemment. Et puis en même temps, il y a très peu de revendications sur ces questions-là en France, contrairement aux États-Unis, où les Américaines, là, les 23 footballeuses, ont déposé plainte justement pour ces inégalités.
Mm-hmm.
Donc, sur les inégalités de salaire, quand on regarde le monde du travail, on est dans un rapport de 1 à 5, hein, de 20% à peu près en moyenne d'écart, dont
ouais.
on parle tous les 8 mars. Quand on regarde du côté du football, alors écoutez, pour les joueuses, par exemple, de D1, on est à un écart de 1 pour 44. Et si on prend les stars de
c'est
l'équipe
énorme.
De France, les stars féminines
oui.
de notre équipe de France par rapport à Mbappé, par exemple, bon, on est juste à une différence de 50 fois plus ou moins. Donc là, ce sont quand même voilà, des écarts considérables et sur lesquels il devrait y avoir moyen quand même de poser une revendication sur le fait que ça n'est pas acceptable, cette inégalité-là.
Oui, alors on voit que les athlètes subissent souvent une injonction à la féminité, leur tenue est scrutée. On se souvient d'ailleurs de Serena Williams hein, qui avait préféré une combinaison intégrale à la traditionnelle jupe des joueuses de tennis et que ça avait fait tout un pataquès autour
mm-hmm.
de ça. Comment vous l'expliquez expliquer ça aujourd'hui en 2019 ?
Eh oui, on aimerait bien ne pas avoir à l'expliquer.
Ouais.
Serena Williams, un mot quand même, les filles devraient pouvoir, les sportives devraient pouvoir s'habiller pour être à l'aise et pas pour faire un défilé de mannequins. Je pense à la remarque qu'avait fait Marion Bartoli donc en 2013 quand un journaliste lui avait dit qu'elle n'était pas canon et elle avait dit qu'elle était là pour gagner et qu'elle n'était pas là pour faire un défilé de mode. Enfin, c'était à peu près cela.
Ouais.
En fait, depuis plus de 100 ans de sport moderne, encore une fois, la question revient tout le temps, la sportive est-elle féminine ? Mais pour être efficace, par exemple, en première ligne de rugby, dont on parlait tout à l'heure, elles ne peuvent pas avoir des physiques de danseuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, est-elle féminine ? Les filles ne seraient féminines que cheveux longs, maquillées, en robe, avec des boucles d'oreilles ? Est-ce qu'on pose la question pour les femmes ingénieures, les femmes politiques ? Est-ce qu'on pose, sur la question des sports, il y a des controverses aujourd'hui qui ont été données et elles font tout comme les hommes. Bah oui, elles font aussi les mêmes sports que les hommes. Est-ce qu'on pose la question de la même manière pour les métiers ?
Non, pas du tout. Mais je vous le confirme, elles font exactement le même sport que les hommes. D'ailleurs, c'est très agréable à regarder le football féminin. Je dois dire que je n'ai pas raté un match pratiquement de la Coupe du Monde et que voilà, j'ai particulièrement apprécié ce football féminin. Nous sommes beaucoup à l'avoir découvert en plus.
Oui, c'est très joli et c'est très harmonieux. Et Catherine Levaux, j'avais une question concernant le sursaut aujourd'hui. Il existe un sursaut aujourd'hui dans la société pour la lutte contre le sexisme. On se rapproche de plus en plus vers cette égalité femmes-hommes. Est-ce que ce sursaut existe-t-il aussi aujourd'hui dans le sport ? Est-ce que ça va aussi vite ou est-ce qu'il y a une vraie différence et le sport finalement est encore en retard sur la société ?
Je confirme, j'ai travaillé sur la question des dirigeantes, je travaille sur ces questions depuis plus de 40 ans, de l'accès des femmes, des hommes et des femmes dans les pratiques sportives, etc. Le sport, et ça a déjà été dit comme ça d'ailleurs, un des derniers bastions masculins, du sexisme aussi. Et si on prend par exemple l'accès au poste de dirigeante, il faudrait se contenter d'une femme présidente d'une fédération olympique. Bon, enfin, il n'y a même pas 10%, il y a 10-11% de femmes présidentes de fédération. Si on prend la médiatisation, pendant plus de 80% du temps, ce sont les hommes que l'on va voir. Si l'on prend la fédération de football, là, évidemment, c'est un moment historique, hein, le mondial par rapport à la visibilité des footballeuses. C'est un grand tournant. Reste que elles ne sont encore que 7% à la Fédération française de football. Donc, ça n'est pas non plus une très très grande révolution.
Il y a en tout cas encore beaucoup de chemin à faire. Catherine Levaux, vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à écouter vos éclairages. Nous allons accueillir maintenant Stéphanie, sportive amatrice. Elle s'est battue, on va le voir, pour donner une visibilité au rugby féminin.
Europe 1. Nous parlons du sexisme dans le sport qui touche les rémunérations, la différence de traitement, le respect. Aussi, on vous écoute au 39-21. Vous n'hésitez pas également, vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1. Et nous sommes en ligne maintenant avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Stéphanie ?
37 ans de Castres.
D'accord, 37 ans de Castres, une terre qui sent le rugby. Il y a maintenant plus de 10 ans, vous avez monté l'équipe féminine de rugby de votre village. Vous dites que c'est en voyant votre frère jouer que vous avez souhaité vivre les mêmes sensations. Racontez-moi comment tout ça s'est passé.
Eh bien, effectivement, j'étais en terre revelloise, c'est une petite ville Revel à côté de Toulouse, où mon frère pratiquait le rugby, c'était en fédéral ou en honneur, je pense, parce que ça fait 10 ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai pas eu la chance, petite, suite à un accident, de pratiquer le sport. Mm-hmm. Donc, quand je les ai vus jouer, je me suis dit, pourquoi pas jouer, tester, essayer, et puis l'envie m'a pris, et puis lors d'une réunion, tout simplement dans un café, dans un coin, beaucoup de femmes m'ont rejoint. Oui. Et effectivement, une section de rugby féminin s'est montée, en silence la première année, c'était ma volonté, parce que justement, une femme dans le sport, c'est délicat, il y a une perception qui est délicate, et il faut prendre beaucoup de choses en compte, et donc cette section, elle est née, et elle est toujours active aujourd'hui.
Alors, on parle de terre de rugby à Castres. On voit aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, que le rugby a pris un certain essor, puisque aujourd'hui, les joueurs professionnels sont bien payés, je parle des hommes. Malgré cela, et on voit beaucoup de femmes venir au rugby avec les enfants, avec en famille. Alors, les femmes dans les tribunes, visiblement, c'est bien. Mais sur le terrain, même à Castres, et je parle de votre père directement, qui émettait des réserves sur le fait que les femmes puissent jouer au rugby. C'est étonnant. Que vous disait-il ?
En fait, c'est des perceptions d'ancien temps, c'est-à-dire que chaque période, chaque cycle de vie, les gens, ils ont des perceptions, on évolue dans une société. Oui. Sauf qu'il faut amener les choses d'une manière d'expliquer que le sport, déjà, il est pour tout le monde. Quelconque pratique, la femme a le droit aujourd'hui de pratiquer et d'être mise en avant dans les règles de l'art, comme l'homme. On a le droit totalement d'être et de pratiquer n'importe quel sport, et notamment le rugby. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de préjugés, mais ce qui est important dans cette pratique en tant que femme, c'est d'expliquer, en fait, d'avoir un message d'éducation, déjà par le savoir-être, c'est-à-dire avoir une attitude et un comportement beaucoup plus élevé, respectable que l'homme, malheureusement, c'est comme ça. Et il est vrai que c'est un chemin qui était très très long lors de la mise en place de la promotion du rugby féminin, parce qu'il faut aller chercher, il faut aller expliquer à la population que venez voir un match de rugby, ne pensez pas, ne réfléchissez pas. Vous avez des perceptions sur le rugby masculin aujourd'hui qui est quelque chose de très emprunté, qui est très... aujourd'hui, c'est le rugby professionnel masculin, c'est choc, c'est assez impressionnant. Donc, on n'arrive pas à allier, si vous voulez, la femme. Alors, attendez, la femme, elle joue rugby, mais c'est vulgaire, mais c'est ci, c'est ça. Donc, je peux comprendre que les gens émettent des avis et des préjugés.
Oui.
Mais pour cela, il faut à la base une éducation, un message, expliquer qu'avant tout, c'est du plaisir. Expliquer que nous, les filles, nous ne sommes pas payées, qu'on prend plaisir à laisser les enfants à papa, par exemple, et retrouver pour décompresser avec des filles, pour jouer au ballon, tout simplement, quoi. C'est tout un package que les gens, ils n'ont pas cette notion.
Oui,
on leur explique bien...
Ouais. Mm-hmm. Au final, ça n'est que jouer au ballon, vous avez raison.
Exactement. Mais il faut rester simple dans la perception, et c'est ce langage que j'ai essayé de promouvoir pendant plus de 10 ans, à travers la France entière, pour aider les clubs à les structurer, de manière à acquérir davantage de public.
Oui.
Parce qu'on me disait, j'ai eu la chance de baigner dans pas mal de monde, de haute sociale, même la fédération. Et c'est vrai que quand on les écoute, on ne peut pas en vouloir à ces personnes. Mais je me suis toujours dit, moi qui viens de nulle part, qui était personne, je n'ai pas eu la chance de rester longtemps à l'école, comment j'arrive moi à développer ou à remplir un stade, à moi toute seule dans un village?
Oui.
Et pourtant, je n'avais pas plus de moyens, mais il faut tout simplement y mettre du cœur et expliquer aux gens. C'est comme à l'école, de l'éducation. On a le droit de jouer au rugby. Venez nous voir, vous allez prendre plaisir. Et effectivement, aujourd'hui, quand on allume la télé, grâce à l'émission, par exemple, de... comment il s'appelle, Jean Abeillou, que je salue avec mon ami Éric Mouget, qui ont mis l'axe sur... qui ont une façon de percevoir le rugby avec élégance, avec respect... Et cette image-là, elle est importante, parce que les médias aussi avaient leur responsabilité. C'est-à-dire que j'adore le middle, hein, attention, il n'y a pas de critique, c'est que du positif.
Oui.
Mais les photographes prenaient en photo les femmes qui ne les avantageaient pas. Donc ça ne peut pas plaire, hein. C'est normal.
Ouais,
aujourd'hui, on consomme en 2 secondes, ça ne plaît, ça ne plaît pas. Mais il faut aller au-delà de ça, parce qu'après, quand le public est présent, je peux vous garantir que ça vibre de partout, il n'y a pas d'argent. Malheureusement, ça se professionnalise, ça se met en place au fur et à mesure, parce que les acteurs du rugby féminin en France sont réellement nombreux. Dans les comités, il y a des femmes, des entraîneurs qui entraînent les sections, et il y a du travail de fourmi. Mais ce qui est malheureux, c'est que si on ne maintient pas ce message constamment, eh bien, ça se perd très vite. La femme perd sa place très très vite.
On va voir que vous avez fini par quitter votre club pour promouvoir le rugby féminin partout en France. Ce discours à base de mots simples, d'idées simples, et finalement on y retrouve la pureté et la féminité. On continue à en parler dans quelques instants, Stéphanie, avec vous.
Europe 1.
Vous avez constaté une différence de traitement entre des joueurs et des joueuses au football, au tennis. Le sexisme dans le sport, vous y êtes confrontés. Comment ça se traduit? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Multiple, sous-médiatisé avec des écarts de rémunération, une sous-représentation au poste d'encadrement, d'entraîneuse. Le sexisme dans le sport, vous connaissez, vous témoignez au 39-21 sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Stéphanie qui nous expliquait qu'en regardant son frère jouer au rugby, eh bien elle aussi avait voulu retrouver les mêmes sensations et qu'elle avait créé la section féminine dans le club de rugby. C'est à Castres directement que vous l'avez créé, Stéphanie ?
C'était à Revel, voilà. Et Revel. Après, nous sommes allés au Castres Rugby Féminin, où d'ailleurs, on a été championne en 2011.
D'accord.
J'ai eu la chance de jouer avec Safi Ndai, que je salue d'ailleurs, qui est dans l'équipe de France et qui est une personne juste exceptionnelle. Bah, toutes les rugbymen, de toute façon, sont exceptionnelles pour moi.
Ouais.
Et voilà.
Vous n'avez jamais été internationale jusqu'à maintenant ?
Non. J'ai pratiqué au départ le rugby à 7, le rugby à 15.
Ouais.
Et quand justement j'ai eu cette expérience de pas pouvoir jouer la finale, notre petite finale à 7, c'est là où j'ai pris rage parce que j'ai trouvé une sorte d'injustice qui m'a pris, qui m'a poignée. Et j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose pour promouvoir ces femmes. C'était pas juste. Et donc,
c'est-à-dire, racontez-moi.
Eh bien, c'était tout simplement, on était hors championnat, on pouvait pas trop jouer notre finale parce qu'il fallait aider les garçons, parce qu'eux aussi jouaient leur finale, et du coup, on était hors championnat, donc on n'a pas pu jouer notre finale.
Oui.
Donc, c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup de mal, parce qu'on avait travaillé en silence pour être respectés, on était respectés, j'adorais mon club. Et donc, c'est vrai que par la suite, à travers de multiples tournées, voilà, je suis allée rencontrer les acteurs, les actrices du rugby féminin. Et là, il y a une telle différence qui est juste inacceptable à prendre avec du recul, bien entendu. C'est-à-dire que comme une sorte d'audit national, voilà, de se rendre compte d'un état de fait et de se dire, OK, il y a des axes qui sont négatifs. Ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour que ça soit positif ?
Lorsque vous parlez de choses inacceptable. Dites-moi ce que vous avez trouvé inacceptable, parce que je suppose que vous avez entendu des choses qui ont dû vous glacer le sang. Racontez-moi.
Bien sûr. Alors, j'avais plus ou moins j'ai le défi, quand quelqu'un me dit, oui, mais c'est pas pour vous les femmes, le rugby féminin, et j'avais le défi, moi, en permanence, de proposer une autre vision à ces gens-là, c'est-à-dire que je me suis retrouvée, par exemple, devant M. Pontens, à l'époque, c'était le président du club de Dax, qui nous a énormément aidés. C'était le club de Herm, qui était un club multi-champion de France en silence, dans leur coin. C'était juste pas possible pour moi de voir de telles compétences, des femmes hyper courageuses, parce que c'est dur le rugby pour nous quand même, hein, à une certaine échelle.
Qu'entendez-vous par c'est dur le rugby pour nous ?
Ben, il faut avoir de la constance, faut préparer, on reste des femmes.
Ouais.
Les hommes sont des hommes, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des femmes et les hommes ne sont pas des femmes. Mais nous avons, il faut une justesse, une forme d'équilibre de manière à pratiquer notre sport, c'est-à-dire que on était confrontés aussi à des hommes qui nous formaient dans le rugby avec une approche masculine.
Ah oui,
donc
d'accord.
Il y avait aussi un axe éducatif aussi à avoir. Il y avait aussi un axe éducatif au niveau de la Fédération française de rugby. Il y avait un axe aussi éducatif à avoir avec les médias. Donc c'était presque tout nouveau. Et il est certain qu'il y avait des personnages connus, dont je tairai le nom malheureusement, je ne veux pas m'attirer les foudres, qui me disaient très clairement « Stéphanie, c'est fait pour... va jouer à la danse. »
Oui.
Et je lui disais à l'époque que j'étais plus jeune, j'étais pas assez armée aujourd'hui pour répondre à ce genre de choses. Et je lui disais, c'est pas juste, ça ne se fait pas. Et même, je ne tolérais pas qu'il me parlait comme ça. Et puis, il partait avec le sourire. Il passe encore à la télé aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il y a des moments où vous avez été découragée ? Parce qu'on entend que les choses ont évolué, hein, qu'elles évoluent trop lentement. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu envie de laisser tomber ?
Non, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes. J'étais dans une prison de verre parce que malgré que c'est toujours cette même phrase que je dis, j'étais personne, j'avais pas forcément plus de compétences, mais je suis allée chercher le savoir, je suis allée chercher tout ce qu'il fallait, rameuter les gens, la population, et à moi toute seule, sans argent, j'arrivais à le développer. Et je comprenais pas pourquoi là-haut, ça buguait en fait. Bon, mais c'était pas grave, je restais positive.
Stéphanie, on va demander justement à Catherine Nouveau, qui est sociologue et spécialiste des questions de genre dans le sport, qu'elle réagisse face à votre témoignage. Pourquoi, Catherine Nouveau, on voit un tel chantier encore auquel il faut s'atteler pour faire changer durablement les mentalités ? Parce qu'on écoute Stéphanie, même si on sent qu'elle s'est battue, il reste, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de chemin, non ?
Oui, on sent bien les résistances. Et moi, ce que j'observe depuis le temps que je travaille là-dessus, c'est que ça ne bouge qu'extrêmement lentement,
ouais.
A fortiori dans un sport comme le rugby, parce que Stéphanie dit « on a le droit ». Elle parle de perception de l'ancien temps par rapport aux femmes. En fait, malheureusement, on peut se rendre compte que ce n'est pas un temps si ancien. C'est-à-dire, on voit bien ce qui se joue. Il y a un enjeu de société sur la crainte de la ressemblance des sexes. Et donc, quand une femme pratique une activité historiquement masculine dans laquelle il faut être forte, puissante, dans l'affrontement, le combat, alors se salir, se blesser, a fortiori, selon les sports, etc., eh bien, évidemment, il y a là cette crainte qui se réaliserait. Et donc, la question qui revient toujours et qui est la même depuis 150 ans, une femme qui fait un sport de force, de combat, d'affrontement, est-elle vraiment une femme? Donc, oui, parce que elle est sur des techniques corporelles qui s'apprennent, des compétences, elle n'est pas dans un changement d'identité. Il y a quand même un quart des mères de famille, c'est un sondage de l'année par Kantar Sport, qui ne souhaitent pas que leur fille fasse du football. Et le football, c'est moins d'affrontements, on va dire, que le rugby. Pour le rugby, j'ai entendu dire, ah ben oui, mais elles vont se faire mal, je ne veux pas que ma fille en face, elle va se faire mal, parce que les garçons, ils ont pas mal. Ben oui, dans les représentations culturelles, un garçon, ça pleure pas. Beaucoup sont encore élevés comme ça. Donc, mais bien sûr qu'ils se font mal aussi.
Oui, mais j'ai envie de vous dire qu'au football, comme au rugby, comme l'évoquait très justement Stéphanie, on joue comme des femmes à ce sport. On joue avec un ballon. On adapte le physique que l'on a, le physique de femme, à ce jeu. On prépare physiquement aussi les choses parce que elle le soulignait très bien. Hein, elles sont des femmes et pas des hommes, et que c'est un voilà. Ce sport s'adapte totalement. Et j'aime beaucoup l'idée. Merci de nous l'avoir souligné. Cette crainte de la ressemblance des sexes, cette crainte, elle est attribuée à tous ceux et toutes celles qui ont peur justement de ce changement d'identité à travers des femmes qui aujourd'hui s'essaient à des sports qu'elles aiment tout simplement. Stéphanie, hein, je pense qu'on peut dire ça pour votre part.
Oui, mais comme je disais, c'est une perception, une éducation. Aujourd'hui, le paramètre que je possède aujourd'hui, c'est que je pratique le sport qui s'appelle le CrossFit.
Ouais.
Voilà, qui s'appelle du CrossFit,
ouais.
Qui est aussi utilisé en préparation physique pour les rugbymen. Il se trouve qu'aujourd'hui, face à cette population, dirais-je, cette communauté de CrossFit, la femme est tout aussi intégrée à 100% que chez les hommes. Donc, je ne perds pas espoir. Il faut juste, c'est l'ignorance qui amène à des préjugés. C'est normal que les hommes, ils ont peur parce qu'il y a une modification, ce sont des cycles, il y a une avancée sur des tas de choses. Ce n'est pas rassurant comme la position des parents, comme la position. Même moi, je suis maman d'une fille de 18 ans. Si elle me dit demain je pratique le rugby, ben, naturellement d'instinct, je vais m'inquiéter, ce qui est normal. Donc en fait, on a un pouvoir positif, je n'aime pas cette notion de pouvoir, mais on a le pouvoir par les médias aujourd'hui de bien communiquer sur la femme, parce que la femme est en capacité, une équipe de rugby féminin est en capacité de remplir un stade entier. On le voit avec le foot, elles sont élégantes, elles ont leur attitude et leur comportement, mais du coup, le respect s'instaure de plus en plus. Mais il est évident que ça passe aussi par la compétence sportive, c'est-à-dire que plus elle gagne, on va gagner 10 titres, on va commencer à être entendu.
C'est ça qui est malheureux. Vous allez promouvoir et continuer de promouvoir le rugby féminin partout en France, et votre discours va faire mouche, j'en suis sûr, Stéphanie. Merci pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur Europe 1. Dans quelques instants, nous allons accueillir Aurélie. Après avoir constaté un peu de place accordée au sport féminin dans les médias, elle a décidé de créer Les Sportives, qui est un magazine, on va le voir, qui est dédié exclusivement à ce sport féminin.
Europe 1. Victime de préjugés, d'idées reçues quand on oppose sport de filles et sport de garçon. Vous êtes confronté au sexisme dans le sport, vous composez le 39-21. Europe 1. Comment combattre le sexisme dans le sport? Vous échangez avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons maintenant Aurélie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Aurélie?
Alors, j'ai 31 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors Aurélie, vous avez longtemps pratiqué la gymnastique, un sport associé aux femmes. Et ensuite, vous avez travaillé comme chargée de communication dans un club de handball. Et vous avez été frappée, visiblement, par l'absence de couverture médiatique des événements sportifs féminins en règle générale. Et c'est là que vous avez décidé de créer votre propre magazine qui s'appelle Les Sportives. Quelle en est la ligne éditoriale? Pourquoi avoir créé ce magazine? Et ça fait 3 ans maintenant, comment a-t-il été reçu?
Alors, tout d'abord, c'est vrai que de par ma pratique sportive en tant qu'ancienne gymnaste et le fait de travailler depuis des années dans le mouvement sportif, aussi bien de sport de haut niveau qu'associatif, j'ai fait ce constat que les femmes étaient sous-représentées dans les médias. Notamment, ce qui m'a frappée, c'est lorsque je travaillais pour le club Metz Handball, qui est le club élite, l'un des clubs élites encore aujourd'hui, club phare du championnat de hand féminin.
Oui.
En 2009, c'était l'arrivée d'Alison Pinault dans ce club. Et qui venait d'avoir le titre de meilleure joueuse du monde. Donc je me suis dit quand même meilleure joueuse du monde, et en plus elle arrive, elle intègre le meilleur club du championnat, et elle n'est pas citée dans les médias, où il y avait deux lignes, à peine citées dans la radio, et c'est en étalant la presse finalement, en écoutant la radio, en regardant la télé, que ce soit locale, internationale et nationale, que je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de temps dédié aux sportives, aux sports féminins?
Alors, vous avez créé...
toujours cloisonné féminin, donc j'ai créé
Les Sportives.
Les Sportives. Exactement, et voilà, ça va faire 10 ans, parcours semé d'embûches, donc le média a 3 ans, c'est un trimestriel, comme j'aime bien le dire, c'est un trimestre de débat, d'idées, c'est un magazine de fond sur le sport féminin, et surtout c'est un magazine dédié à toutes les sportives, donc les sportives de haut niveau, les sportives de loisirs, quel que soit l'âge, et surtout si vous allez en kiosque, n'allez pas dans le rayon féminin, il n'y sera pas, mais allez dans le rayon sport plutôt, parce qu'il n'y a pas de rayon masculin, donc c'est aussi du sexisme. C'est pourquoi créer un magazine qui serait forcément dans le rayon féminin alors qu'on parle de sport.
Vous êtes, ça marche comment? Vous êtes contente?
Je suis plutôt ravie puisqu'il accompagne aussi l'évolution des mentalités. C'est aussi une réaffirmation des sportives. En fait, c'est une prise de confiance et de conscience que la femme peut être une sportive et qu'elle peut l'affirmer clairement.
Oui.
Parce que finalement, si vous tapez même sur les moteurs de recherche, quels qu'ils soient, encore aujourd'hui, vous trouvez quelques articles sur, quand vous tapez sportive, vous trouvez des articles sur des voitures. Ou alors, sportive, c'est des sportives les plus sexy. Voilà, donc créer ce média, c'est bien plus qu'un média papier, c'est aussi une plateforme en ligne, avec toute l'actualité du sport féminin, mais surtout sur des sujets de fond, des portraits de toutes les sportives. Mais c'est surtout pour l'affirmation de la sportive et qu'elle prenne toute sa place, puisqu'on ne lui donne pas toujours, malheureusement.
Et vous tous et vous toutes qui vous nous écoutez cet après-midi, je vous encourage vraiment à chercher ce trimestriel qui s'appelle Les Sportives, que vous pouvez retrouver en ligne sur les plateformes, ou que vous pouvez retrouver dans les points presse. Donc ça s'appelle Les Sportives, c'est consacré aux femmes sportives, et vous y apprendrez plein de choses si vous avez envie de vous mettre au sport aussi, et même aller dans un club, pratiquer. Il n'est jamais trop tard. Eh bien, merci beaucoup Aurélie, merci à Jade, merci à Béatrice, à Stéphanie, merci à Catherine Louveau pour ses éclairages. Si tous les sports sont désormais accessibles aux femmes, elles sont encore trop peu visibles dans ce domaine et bon nombre de clichés subsistent, on l'a entendu, mais les initiatives se multiplient pour donner plus de place et de légitimité au sport féminin. Si ce combat vous tient à cœur, vous pouvez par exemple rejoindre l'association Femix Sport qui encourage la mixité et l'équité dans le sport. Et en cette période de Tour de France, n'hésitez pas à participer à la 5e édition de Donnons des ailes au vélo, au cours de laquelle des femmes cyclistes réalisent les étapes du Tour de France un jour avant les professionnels masculins. Vous pouvez bien évidemment continuer à échanger, discuter sur les réseaux sociaux.
Sportives et sportifs, n'hésitez pas sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1 et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons des écoles alternatives, des établissements qui séduisent de plus en plus de parents. Si vous avez fait le choix d'inscrire votre enfant dans une école alternative, si vous avez été scolarisé dans une école alternative, si le système scolaire traditionnel ne vous convient plus, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire et nous serons là avec Ombline pour vous écouter. Il est bientôt 16h, l'heure de retrouver Karima Charny jusqu'à 18h avec cette ambiance musicale, ces surprises. Bonjour Karima.
Bonjour Olivier, bonjour Ombline.
Bonjour. Alors quel est le programme ma chère aujourd'hui?
Alors est-ce que vous connaissez la définition du mot éclectisme?
Oui.
Et bien, c'est musique. Exactement, c'est musique. On va avoir de la bossa nova, de la pop, du rock et même du hip-hop, donc bienvenue dans la musique à partir partir de 16h.
Ça va bouger, ça va swinguer avec Karima Charny jusqu'à 18h. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis bien évidemment, je vous retrouve à partir de 15h avec grand plaisir demain. Au revoir.